Heure presque 21 et on est de retour à C'est notre argent. François, on parle d'impôts, là, on aide les gens à remplir leurs déclarations. Reste quelques jours en théorie.
Tout à fait.
Et puis on a plein d'appels, plein de textos. Oui.
Il y en a un, entre autres, une personne qui travaille à temps plein en Ontario, retire de la régie des rentes, pension de retraité, revenu de 69 000 quelques dollars. Il y a de l'impôt qui a été retenu, le REER 8060, il doit encore 1600 au Québec. Alors comment se fait-il qu'il doit de l'argent au Québec? Quand vous travaillez en Ontario, et là je m'adresse particulièrement aux gens de Gatineau qui se font retirer les sous en Ontario et non pas comme s'ils étaient travailleurs du Québec, sachez que vous pouvez transférer 45% des impôts payés au fédéral vers le Québec. Il va toujours rester une somme résiduelle parce que les impôts c'est plus généreux en Ontario qu'au Québec. On paye plus cher d'impôts chez nous que chez eux. Alors, c'est pour ça qu'il lui reste encore une somme à payer au Québec. Alors, c'est bien important de prévoir le tout. Parce que j'en connais quelques-uns de mes amis là qui sont dans la région de Gatineau et qui travaillent effectivement de l'autre côté de la frontière et qui sont payés donc comme s'ils étaient citoyens ontariens, mais quand ils reviennent au Québec, comme sont citoyens québécois, ils doivent faire leur déclaration de revenus autant au Québec qu'au fédéral. Et c'est là que les complications arrivent.
OK, très bien. Voilà. Puis, par exemple, pour un travailleur autonome là, qui a des clients en Ontario, et là, à ce moment-là, c'est pas la TPS-TVQ, mais la GST là, ou HST.
Oui, c'est la HST, donc c'est la taxe harmonisée. Là-bas, c'est 15%.
C'est normal, là.
Oui, tout à fait.
Parfait, très bien. On va parler avec Sonia. Bonjour, Sonia.
Oui, allô, Jeffrey. Écoute, j'ai une question pour vous, M. Gagnon. C'est simple. Moi, mes impôts de cette année ont été faits, mais j'ai commencé là l'école au mois de mars. Présentement, là, j'ai été prêt des bourses, mais dans une autre émission là, de M. McSween, j'ai entendu parler du REEP. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle.
Oui, le REEP, le régime d'épargne-études.
Oui, exact. Voilà. Donc, je voulais savoir lequel était le mieux là pour moi. Est-ce que c'est mieux de faire de continuer avec les prêts et bourses ou d'y aller vers les REEP?
Parce
que j'ai déjà cotisé pour des REER.
Les REER. Un empêche pas l'autre. Vous pouvez faire une demande de prêts et bourses. Et bien sûr que ça va être fort probablement diminué parce que ça devient comme une espèce... Non, c'est même pas un revenu parce que ça n'apparaît pas dans la déclaration de revenus. Alors le REEP, vous avez le droit de retirer jusqu'à 20 000 $ à condition de le faire 10 000 $ une année, 10 000 $ dans l'autre année.
Est-ce que alors, je dois absolument avoir le 10 000 $ dans mes REER?
Ah ben oui. Il faut aller au moins 10 000 $ pour être capable d'en retirer 10 000. C'est le même fonctionnement que... par la suite, j'aurai 10 ans pour le rembourser, par contre, là, mais c'est le même fonctionnement qu'un RAP, si vous voulez. C'est à peu près la même chose.
Je peux faire la demande pour un REEP et je pourrais peut-être même toucher les prêts et bourses.
Tout à fait.
Ben, bonne chance à vous, ma chère Sonia. Stéphane, bonjour, on vous écoute.
Oui, bonjour.
Oui,
bonjour. Question rapide, vous aviez mentionné un site là, pour faire un calcul avec notre revenu, les déductions qu'on a payées, puis le montant qu'on devrait recevoir ou payer.
Oui.
En faisant l'exercice, là, ça me donnait un montant assez haut que je devrais payer. J'ai fait mes impôts avec impôts, turbo-impôts.
Oui, bravo.
Puis je retire. Je retire bon. Au bout de la ligne.
Ben ça dépend. Le site que je vous avais donné, il faut faire attention, là, hein, ça fait qu'une estimation. Alors que lorsque vous utilisez turbo-impôt, là, c'est la réalité. Alors, il y a une différence entre les deux. On peut estimer les impôts à payer parce que probablement que vous aviez reçu soit du PCRE, donc la prestation canadienne de reprise économique, ou la prestation canadienne d'urgence, la PCU. Alors, là, j'avais invité les gens à faire une espèce de pré-opération, si vous voulez, pour être capable d'estimer les impôts à payer là-dessus, mais c'est pas nécessairement la réalité, là, parce qu'il faut le manipuler comme il faut aussi.
Non, donc, en théorie... J'avais reçu aucun des deux, là.
François, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en théorie, quand vous utilisez, je sais pas, une calculatrice REER de turbo-impôt, là, quand tu vas faire tes impôts véritablement avec le logiciel, tu vas sûrement en payer moins que ce qui est estimé par la calculatrice.
Fort probablement. Alors, parce que les chiffres, parfois, on les soit qu'on les... Est-ce que vous êtes travailleur autonome?
Non.
Non. Ben, c'est parce que parfois, on n'aura pas les véritables déductions, là.
C'est ça, c'est ça.
C'est avec vos feuilles de paye. Il y a des montants qui sont imposables à un, l'autre l'est pas, etc., etc. Alors, il y a plein d'inconvénients, là. Alors, on peut faire de l'estimation, mais ça demeure une estimation.
C'est ça.
Voilà.
C'est bon, Stéphane?
Merci beaucoup.
J'ai été d'avoir un retour.
Bonne chance, on l'espère.
Bonne
aussi
chance.
Solange, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Solange, bonjour. On vous écoute.
Bonjour à vous deux, je voudrais savoir une chose. La semaine dernière, tantôt vous parliez que le fédéral ne coopérait pas à date là, pour allonger la date de remise d'impôt.
Oui.
J'ai entendu M. Zappa à TVA.
Oui.
Qui a dit que c'était parce que le système fédéral est trop désuet. Est-ce que vous partagez cette opinion?
Ben, il est trop désuet, ça c'est de la... s'il y a quelqu'un qui lui a dit à Pierre-Olivier que le système était trop désuet, pour moi c'est de la bullshit. Parce que si y en a un système qui a bien fonctionné au cours de l'année 2020, avec toutes les prestations qui étaient sur leur dos, c'est bien le système de Revenu Canada qui est bien monté. Alors, c'est pas parce qu'on va retarder la date de 30 jours que ça va faire quoi que ce soit. Écoutez, l'année passée, ils l'ont retardé au 30 juin.
Mais il n'y a pas eu...
Il n'y a pas de problème.
Si on peut l'an passé, pourquoi ils peuvent pas cette année? C'est de la mauvaise foi, alors.
Ah ben, regardez, là, il y a 3 ans, il y avait eu un... Il y a 4 ans, il y avait eu un problème où on avait retardé jusqu'à la fin mai parce que Revenu Canada s'était fait hacker et pendant 5 jours, on n'était plus capable de faire des déclarations de revenus.
Ouais.
Donc, on avait prolongé d'un mois. L'année suivante, il y a un fonctionnaire qui avait envoyé un communiqué au comptable faisant un copier-coller du communiqué de l'année d'avant. Il s'était trompé. Au lieu du 30 avril, il a marqué le 31 mai. Fait que ça a prolongé de façon automatique au 31 mai. Alors, vous voyez que ça, c'est de la foutaise, cette histoire-là. Voilà. Puis c'est pas de la faute à Pierre-Olivier. C'est fort probablement un fonctionnaire qui lui a dit ça, là.
On va se souhaiter bonne chance.
Merci.
Oui, parfait.
Faites confiance à M. Lepage, Guillaume Lepage.
Ben, j'espère aussi.
On vous remercie pour vos bonnes informations.
Ben, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Attention à vous.
Marie-Josée, bonjour.
Bonjour, à vous deux.
Bonjour.
Une question fiscale.
Oui.
L'année, jusqu'en mai l'année dernière, mon père et ma mère âgées habitent dans une résidence, dans la résidence familiale, donc une maison.
Mm-hmm.
Donc l'année dernière, les deux ne peuvent plus habiter dans la maison l'été parce que mon père décède et ma mère perd la vue. Donc, elle ne peut plus habiter dans la maison familiale.
Mm-hmm.
Cependant, mon père et ma mère qui sont propriétaires, avec la succession, c'est ma mère qui devient seule propriétaire de la maison familiale, mais elle n'y habite pas. Elle loue dans une résidence avec unité de soins. Donc,
oui.
La maison est inhabitée et en son nom. Le transfert a été fait chez le notaire.
Mm-hmm.
Si elle vend à un de ses enfants, moi étant l'un de ses enfants, quel est l'impact fiscal?
Zéro.
Pour elle et pour
zéro.
Moi?
Zéro. Si vous l'achetez, vous, elle, comme c'est le patrimoine familial, et comme elle ne peut plus l'habiter, oui. Alors à ce moment-là, il n'y a pas d'impact fiscal pour elle. Mais vous, si vous l'achetez, vous, et que vous êtes propriétaire déjà d'une maison, à un moment donné, il va falloir que vous fassiez un choix. Parce que un des deux va devenir donc une résidence
assujettie au gain de capital.
Va être assujetti au gain de capital. C'est vous qui allez copier éventuellement.
J'ai pas propriétaire d'une autre.
À ce moment-là, il y aura pas de problème. Vous en faites votre résidence principale, puis il y a pas de trouble.
OK. Une sous-question peut-être. Si jamais ma mère décédait. Est-ce que la succession serait imposée?
Sur la maison, non.
Oui.
Pourquoi?
Non plus.
Non plus, ça fait partie du patrimoine familial. Les seules choses qui vont devenir imposables à ce moment-là, ce sont ses propriétés, si elle a des investissements, par exemple, les intérêts sur le CELI de la dernière année, les FER, les REER, ça devient imposable au moment du décès. Pour le reste, la maison familiale, ça fait partie du patrimoine. Il n'y a pas d'impôt là-dessus.
Bonne chance, Marie-Josée. 11h30, François, on va revenir dans un instant. On est dans un véritable marathon d'appels jusqu'à midi. Dernière clinique d'impôts. On vous aide, on répond à vos questions. 514-790-9850. 1-866-790-9850.